Vous êtes sur RTL. RTL Soir.
Avec Stéphane Carpentier.
Le vendredi dans RTL Soir, c'est la liberté de parole d'Éric Brunet pour les temps forts des derniers jours. Bonsoir Éric.
Bonsoir Stéphane.
Une semaine d'actualité marquée par les conséquences de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine avec Jean-Luc Mélenchon qui déclenche une polémique dès dimanche en parlant des Tchétchènes.
Oui, on lui reproche d'avoir dit « Il y a clairement un problème avec la communauté tchétchène. On a accueilli des Tchétchènes qui sont les partisans d'une guerre civile sur fond de religion. » Et c'est vrai que l'Association des Tchétchènes d'Europe a appelé à porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon. J'ai voulu savoir s'il existe vraiment un terrorisme spécifiquement tchétchène chez nous, en Europe occidentale, en France. Eh bien, il semble que non. Cependant, Bernard Cazeneuve, lorsqu'il était à Beauvau, ministre de l'Intérieur sous Hollande, avait observé une radicalisation très rapide des Tchétchènes de France. Et selon le Centre d'analyse du terrorisme, il y a 300 individus tchétchènes qui sont fichés chez nous, au fameux fichier FSPRT. Et puis 8% environ des Français impliqués dans les filières djihadistes en Syrie, en Irak, sont d'origine tchétchène. Alors, comment expliquer les propos de Mélenchon? Eh bien, à mon avis, sans doute parce que les Français d'origine tchétchène sont pas très nombreux, environ 50 000 personnes, arrivés relativement récemment, et qu'ils ne constituent pas une clientèle électorale. C'est plus facile de taper sur les Tchétchènes. Existe-t-il un terrorisme tchétchène en France, comme en Russie? Ben non. Existe-t-il des terroristes tchétchènes? Alors là, la réponse est oui, bien sûr. Ces terroristes ne se mettent pas au service de la cause tchétchène, comme en Russie, mais au service de Daesh, comme les terroristes islamistes français. Et alors là, attention, parce que ces terroristes tchétchènes viennent d'une région, d'une communauté, où certains ont combattu pendant des années l'une des meilleures armées du monde, l'armée russe. Voilà, et en Tchétchénie, même ceux qui n'ont pas combattu savent ce qu'est une guerre contre une armée moderne.
Éric, ça vous a intéressé, c'était mardi en réaction à cet attentat de Conflans-Sainte-Honorine, l'Express publiait une interview de François Fillon.
Ouais, il faut dire que depuis l'assassinat de Samuel Paty, François Fillon a Pourquoi? Eh bien parce qu'en 2004, c'est lui qui était ministre de l'Éducation nationale lorsqu'a été remis le rapport de l'inspecteur général Jean-Pierre Robin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans les écoles. Le rapport expliquait, bien avant l'affaire des caricatures, que certains cours étaient déjà contestés au nom de la foi. En français, des élèves refusaient déjà en 2004 d'étudier les philosophes des Lumières, Madame Bovary, qu'on jugeait immorale. En histoire, des élèves refusaient d'étudier l'édification des cathédrales, la Shoah, jusqu'en maths, où certains élèves refusaient tout simplement de faire le signe plus parce que c'était une croix. Et malgré ce constat inquiétant, rien n'avait été fait. Et le rapport est resté lettre morte et sera finalement même pas publié. François Fillon, lui, un peu gêné, dit que finalement, il ne voulait pas jeter de l'huile sur le feu. En tout cas, ça en dit long quand même, hein, sur les années de gouvernance UMP. Parce qu'on avait finalement une droite assez forte en gueule, mais peu courageuse en réalité sur cette question. On ne rendra jamais assez hommage à Jean-Pierre Aubin pour son rôle de lanceur d'alerte. Aubin, finalement, a été une des premières victimes du fameux « pas de vague » sur le sujet.
Et puis mardi, on apprenait que l'assassin de Samuel Paty avait fréquenté une salle de lutte soupçonnée de radicalisation par les services de renseignement.
Difficile de dire si c'est ce passage dans ce club qui est à l'origine de sa radicalisation. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que le sport est depuis longtemps un moyen de recrutement des groupes islamistes. Les auteurs des attentats de Madrid en 2004, de Londres en 2005, ont été recrutés dans des salles de sport. En 2015, une note du service central de renseignement territorial pointait des phénomènes de radicalisation qui touchaient de plus en plus les clubs de sport dans le viseur, les sports de combat, les sports collectifs, les salles de muscu. Dans ces associations sportives, on découvre du prosélytisme, du refus de mixité, du refus de certaines tenues vestimentaires, du refus de la nudité sous la douche, des prières aussi sur le terrain, dans les vestiaires. On se rappelle du cas très très connu de ce club de football amateur de Créteil-Bébel qui avait refusé de jouer un match contre le Paris Football gay. Pour les djihadistes, le sport est identifié comme un moyen de tester, de recruter, d'aguerrir les futurs terroristes. 12,5% des radicalisés ces fichiers sont inscrits dans des clubs de sport. Quand le sport amateur rime avec le terrorisme, j'imagine la tête de Coubertin dans sa tombe.
Mercredi, c'était le jour de l'hommage national d'Emmanuel Macron à Samuel Paty. Eh bien, Didier Cornara, dont le frère avait été décapité en 2015 lors d'un attentat à Saint-Quentin-Fallavier, il a fait part de sa colère dans la presse comme il l'avait fait sur RTL 3 jours plus tôt d'ailleurs.
Oui, c'est une grosse injustice. Didier Cornara a en effet dénoncé l'inaction des gouvernements qui sont succédés depuis l'assassinat de son frère. Il estime que son frère est une victime oubliée. Hervé Cornara, assassiné le 26 juin 2015, a donc été la première victime de terrorisme, tuée par décapitation sur le sol français. Il était gérant d'une PME qui faisait de la livraison en Isère. Il était âgé de 54 ans et son assassin, un père de famille de 35 ans, fiché S quelques années plus tôt, était un de ses employés. Le terroriste avait accroché sa tête sur les grillages de l'usine d'Air Product à Saint-Quentin-Fallavier en Isère, entouré par deux drapeaux de la charada, la profession de foi islamique. Comme dans l'attaque de Conflans-Sainte-Honorine, le terroriste avait pris des photos. Il avait ensuite projeté son véhicule dans l'usine contre des bonbonnes de gaz et un pompier héroïque avait finalement réussi à le maîtriser. Son procès n'a pas eu lieu, puisque l'assassin de Cornara s'est suicidé dans sa cellule 6 mois plus tard. Au passage, on note que l'entreprise de Cornara avait dû lui verser des indemnités pour respecter le droit du travail français. En tout cas, à l'époque, ce drame n'avait pas suscité une émotion nationale. On avait pensé à tort à un motif personnel. L'attentat avait eu lieu 3 jours seulement après que l'État islamique ait appelé ses partisans à commettre des attaques partout dans le monde pendant le Ramadan. Surtout, cet attentat a été très vite oublié. Sans doute parce que il s'est produit dans une petite ville, loin de Paris, mais aussi parce que la victime n'était pas policier, n'était pas professeur, n'était pas journaliste. C'était un indépendant, un petit patron de PME. Et comme son nom a été très peu évoqué cette semaine, à part sur RTL, c'est vrai Stéphane, eh bien, je voulais avoir une pensée pour lui, pour sa famille. Et je le dis, je le répète, comme Samuel Paty, Hervé Cornara a été décapité en France par un terroriste islamiste. Ne l'oublions jamais.
Et c'est dit. Et c'est...